Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Sport, l'émission sportive de Marmite FM 88.4. On est là comme chaque lundi en direct de 17h à 18h pour une heure de débat et une heure de sport local. Sont présents dans les studios aujourd'hui, il y a le spécialiste de la diatribe dans notre raquette radiophonique. Ces shoots vont toujours droit au micro, c'est Noradine Hein. Salut Noradine.
Bonjour à toutes les auditrices, tous les auditeurs. Salut Gilles.
Aux États-Unis, on nous vend des triples doubles. Eh bien, lui, nous vend des triple cheese. C'est Baptiste Coudin.
Salut à tous les gars.
Bon, je voulais pas spolier ta vie professionnelle. Baptiste, j'aurais pu aussi dire aux États-Unis, on a des producteurs de stats. Eh bien, Baptiste est un producteur de vidéos.
Bien sûr.
Simply Baptiste sur YouTube.
Tout, voilà, à fait, ouais, tout à fait.
Notre invité, la science du basket dans les Yvelines, manager sportif de l'étoile sportive des Cheminots de Trappes, club de basket, c'est Nasser Belgacem. Bonjour Nasser.
Bonjour à tout le monde.
Nos studios se transforment en aréna de basket le temps d'une heure. On écoute le sommaire. Dans quelques instants, dans Parlons Sport, nous allons revenir sur les événements phares du week-end. Ça y est, nous entamons la dernière semaine de la saison régulière en NBA avant le début des playoffs. Et ceux qui étaient devant leur télévision cette nuit ont une nouvelle fois vécu des moments complètement incroyables. On parlera de football aussi avec les quarts de finale de la Ligue des Champions qui démarrent dès demain. La compétition à 3 qui continue en Ligue 1 aussi. Et les dernières infos sportives locales avec Noradine qui précéderont l'interview de Nasser Belkacem, notre invité du jour et qui représente le club de Trappes, le club de basket de Trappes. Allez, tout de suite, revenons sur l'actualité sportive du week-end. Eh bien messieurs, on va commencer par un chiffre, le chiffre 42. Eh oui, le record qui datait de 55 ans en NBA, Oscar Robertson, qui détenait le record de triple-double sur une saison 41. Eh bien, Russell Westbrook, hier, a effacé ce record. Il va quand même terminer la saison entière en triple-double en moyenne. D'accord, en termes de passes, en termes de rebonds et de points marqués. Et hier, il nous sort encore un match de folie avec, 50 points marqués et un triple-double.
Un petit shoot au buzzer pour
winner,
donner la victoire.
Un game winner. Ils perdaient 2 points, ils ont gagné. Ouais.
Shoot au buzzer. Et donc, OKC qui valide, c'était déjà fait, mais sa place bien comme il faut pour les playoffs. Ils vont terminer, je crois, sixième de leur conférence. C'était pas donné. Pas beaucoup se seraient risqués à parier ça en début de saison avec le départ de Kevin Durant. Et Russell Westbrook a porté à lui tout seul cette équipe d'OKC sur ses épaules et de fort belle manière. Et le plus bel hommage que peut-être, enfin, qu'il a eu peut-être par rapport à sa performance de la nuit, c'est les tweets de ses pairs
MVP
qui disaient tous donnez-lui le titre de MVP, le titre de MVP qui est décerné au meilleur joueur de la saison régulière de NBA. MVP ou pas Russell Westbrook pour toi, Nasser?
Moi, je sais pas, parce que pour moi, les grands joueurs, c'est ceux qui gagnent des titres. T'es grand qu'avec des titres, sans titre, t'es pas. Aujourd'hui, il est sixième de sa conférence. Il n'est pas tout seul dans l'équipe, parce que l'équipe défend pour lui, lui donne les ballons. Parce qu'il est en moyenne à 30 points par match, il met en moyenne 100 points. Donc il y a 70 points de marqué, il doit prendre quoi? 10 rebonds. Ils en prennent une quarantaine par match, donc il y en a 30 qui sont pris. Sur un terrain, tu peux pas faire. Aujourd'hui, ce qu'il faut. Il faut rendre hommage à l'effectif. Donc ici, parce que l'effectif a compris une chose, c'est qu'il pouvait gagner des matchs, aller en playoff, uniquement si lui, il était bon. C'est-à-dire que l'équipe joue pour lui. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre leur orgueil de côté et de lui donner les ballons. Et de jouer que pour lui. Ça, c'est de l'intelligence. Là aussi, il y a une force aussi, c'est le coach qui met en place des formes de jeu qui permettent aussi à ce joueur-là de briller, mais aussi à l'effectif. Donc ça peut être une surprise, cette équipe-là. Mais il faut savoir que... Pour moi, ce que je pense de Westbrook, c'est un très grand joueur. ce qu'a fait Oscar Robertson. À l'époque, c'était exceptionnel, faire 41 triple-double. Mais Oscar Robertson, j'aime bien qu'on fasse les comparaisons, il faut regarder le nombre d'hits qu'il a gagné. Et les joueurs qu'il y avait en face aussi, parce que c'était difficile. Il faisait partie des premiers blacks à jouer dans une ligue de joueurs blancs, entre guillemets. Donc, il a révolutionné le basket, il a révolutionné la passe. C'était un stratège, c'est-à-dire que c'était un coach sur le terrain. C'était quelqu'un de fabuleux, avec une adresse, une gestion du jeu. C'était exceptionnel. Il était là pour l'équipe. Ses triple-doubles étaient là parce que c'était des besoins pour l'équipe. Il n'était pas dans la statistique. Il était dans la clairvoyance, dans le résultat, dans la victoire.
On voit que même cette année, il a fait cette année en triple-double, il n'a même pas été élu MVP. Donc on voit, ouais, c'était vraiment au service de l'effectif, ouais, tout à fait.
Ah, exactement. Donc c'est autre chose. Après, moi j'aime bien, parce que c'est des joueurs qui apportent une dimension athlétique, basket, culture basket différente. Et aussi, ils sont en train de franchir des paliers qu'on ne pensait pas pouvoir franchir humainement. Mm-hmm. J'ai bien dit humainement et physiquement. Parce qu'il est capable de défendre, il est capable de shooter avec une adresse quand même, capable de passer. Mais cette équipe, elle est intéressante à voir jouer, surtout au niveau de la stratégie. Parce que le coach, il y a coach, il est vraiment bon. Mmh. Même si on a l'impression que, comme tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire, il porte l'équipe sur son...
C'est qui le coach d'OKC pour moi qui a regardé la NBA la dernière fois en 92?
C'est Billy Donovan.
Billy Donovan.
Non, c'est un coach de Georgetown, c'est ça, ouais.
Exactement.
Qui a gagné, qui a remporté le titre, je crois, en plus.
Et qui était un joueur NBA avant, donc.
Exactement. C'est quelqu'un qui a une science du jeu, il a travaillé avec Thompson à Georgetown. Donc, Thompson qui est décédé il y a quelques jours de ça. Il y a une semaine, deux semaines, c'est ça?
Oui, il y a pas longtemps, oui.
Ben, à son âme. C'était un grand coach qui a formé des grands intérieurs, des Patrick Ewing, des comment il s'appelle, Alonzo Mourning.
De Georgetown, ouais.
Même notre meneur, Miku, Eric Miku, qui commande sur Bein, vient de Georgetown. C'est une super fac, super fac.
Bon, quand même, sur l'ensemble de la saison, est-ce qu'on peut mettre quelqu'un au-dessus de Russell Westbrook tant... Dans les statistiques individuelles et collectives sont quand même rarissimes.
Oui, mais si, tout dépend. Qu'est-ce qu'on va récompenser?
Tout à fait. D'un point de vue individuel, je pense qu'il n'y a personne au-dessus de lui. Mais d'un point de vue collectif, on voit que James Harden a un bilan plus positif, implique plus ses joueurs, trouve des systèmes pour eux, les trouve ouverts. Donc, après, la MVP, ça reste une récompense individuelle. Mais d'un point de vue collectif, c'est vrai que James Harden est bien meilleur. Mais point de vue individuel, Russell Westbrook, il y a pas mieux cette année. Ouais.
Alors d'ailleurs, quand on pose la question à James Harden, qui sera MVP, il répond Isaiah Thomas. Meneur de Boston, qui fait une super saison. Ouais. Hein, les Celtics,
ils sont combien? Troisième de leur conférence?
Ouais.
Ils sont troisième de leur conférence. Isaiah Thomas, c'est énorme ce qu'il fait cette année. Hein. Il est présent défensivement, il fait jouer son équipe, il met des points importants, il fait des passes importantes, il met une pression sur le porteur de balle en face qui est assez impressionnante. J'aime bien James Harden, mais défensivement, c'est une passoire. Il apporte rien.
Malgré qu'il fasse quelques efforts là cette année, qu'il prenne quelques rebonds, mais défensivement, c'est pas possible vraiment.
Il est passé au poste de meneur, hein, je
c'est
crois,
ça, ouais, tout à
cette
fait.
Saison, Harden. Ouais.
Mais on voit que défensivement, il est beaucoup aidé par son acolyte Patrick Beverley, qui est à côté de lui, qui fait le sale boulot en fait, qui s'appelait Curry, les Damian Lillard, tous ceux qui sont le gros meneur de la ligue. C'est son arrière qui est juste à côté, et il switch à chaque fois, donc il change à chaque fois, et ce qui permet de...
Quand on parle de switcher, c'est sur pick and roll.
C'est ça, voilà, sur pick and roll, sur les remises en jeu, il switch.
Vous pouvez traduire pour les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent, qui vont faire. Ouais. Ils peuvent switcher sur le pick and roll avec l'hamburger en mayonnaise.
Le pick and roll, en fait, c'est quand un meneur appelle un pivot, en fait, pour lui mettre un bloc. Et dessus, le meneur doit switcher, doit changer avec la personne qui est à côté de lui. Et c'est souvent l'arrière, en tout cas, qui switch. Et voilà, c'est de là où ils défendent, en fait.
Bon, ce sont des phases tactiques, donc, qui sont en général mises en place par les grands coachs.
Les coachs, ouais.
Alors, hier, on a eu un coach qui est en ce moment assez décrié. C'est le coach de Cleveland, les Cavaliers, qui menait de 26 points à l'entame du dernier quart-temps contre Atlanta, sur le parquet d'Atlanta. Et dans les dernières secondes, Atlanta a égalisé un gros trou d'air dans la défense de Cleveland. dont le coach est un certain Tyronn Lue, qui a été, dit-on, intronisé par LeBron James. Mais quand même, là, il y a de quoi douter des aptitudes de coach de Tyronn Lue, messieurs.
C'est le fameux Tyronn Lue The Glue ou c'est un autre? Non, c'est pas lui.
Non.
Ah oui, d'accord.
C'est un ancien joueur NBA aussi.
Oui, ouais. C'est pas lui.
Mais qui a fait une petite carrière, qui est passé par les Lakers. Ça, c'est un joueur de rôle. Mm-hmm. Il y a juste une chose.
Mais c'est lui. C'est lui qu'on surnommait The Glue, parce qu'il défendait très bien sur un meneur. J'ai oublié. Mais si, c'est lui, c'est sûr. Il est petite taille.
Petite taille,
ouais. C'est pas Gary Payton, tu comprends pas avec.
Non, c'est sûr. On l'appelle Tyronn Lue et George Eddy l'avait surnommé The Glue, parce qu'on le faisait rentrer pour les Lakers, d'accord, pour défendre contre je sais plus quel super. Contre Allen Iverson, peut-être, un truc comme ça.
D'accord.
J'ai un vague souvenir. D'accord. Ouais, bon, bref. Oui, nos auditeurs vérifieront.
Bon voilà, Tyronn Lue the coach en tout cas, c'est pas terrible. Hein. Il a réussi à mener Cleveland l'année dernière à la victoire improbable contre Golden State. Avec une bague à son actif. Donc, mais là cette saison, ça va être difficile de faire le back-to-back.
Bah c'est difficile. Après, la NBA, c'est pas un championnat comme les autres. C'est pas une ligue comme les autres.
C'est ça.
Tout est organisé. C'est-à-dire que des entraîneurs, on ne peut pas parler de la compétence des coachs en NBA parce qu'ils sont tous très compétents. Parce qu'il faut savoir que c'est une société, la NBA. C'est pas 27 clubs, 26 clubs. Non, tout ça, il y a des chairman, c'est une entreprise commune. C'est-à-dire que le socle de connaissances, la transmission du savoir et de la connaissance dans le travail, bah, si vous regardez tous les clubs, vous allez voir qu'il y a le même travail qui est diffusé. Quand tu vois un joueur, comment il shoote, comment il dribble, comment il passe la balle. J'ai bien dit. Comment il lit le jeu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un socle commun. C'est-à-dire que la connaissance, elle est diffuse à tous les clubs. Parce que l'objectif de la NBA, c'est d'avoir le meilleur basket du monde et de continuer à avoir le meilleur basket du monde. Parce qu'il y a 6-7 ans, la NBA était en train de...
Décliner.
Et là, aujourd'hui, le travail qui est fait...
Voilà. Sur l'équipe nationale, ouais.
Tout à fait. Aujourd'hui, quand on voit le travail qui est fait en NBA, c'est exceptionnel. Mmh. On a des arrières qui peuvent shooter à 10 mètres derrière la ligne, des intérieurs qui peuvent shooter. Mmh. Ça dribble extrêmement bien. Ça fait des années qu'on n'a pas vu des joueurs aussi athlétiques et bons techniquement.
Je pense que jamais on a vu ça. Même auparavant, c'était plutôt physique, en fait. Et là, il y a une dimension technique qui s'est rajoutée au jeu. Ce qui apporte, en fait, une certaine... Les gens sont fascinés en fait par ça parce que avant c'était plutôt des bourrins, il y avait beaucoup de bagarres. Là, elle est beaucoup plus calme, beaucoup plus soft la ligue, mais techniquement il y a un ossement niveau en fait directement.
On revient à ce qui s'est passé dans les années entre 85 et 95 où le basket en NBA était exceptionnel techniquement. Mmh. Il y a une baisse après vers 97, 98, 99 où ça s'est baissé et là c'est reparti. Tout simplement parce que quand tu domines tellement, des fois, tu te reposes sur tes lauriers. Mmh. Et ce qu'a fait l'Europe et le monde entier, c'est qu'ils ont bougé la NBA. Ils leur ont dit, là, ça commence à travailler à l'extérieur. En Europe, ça travaillait. Mmh. Et donc, quand les Européens commencent un petit peu à travailler, et hors de l'Europe aussi, la NBA s'est posé les questions, et les bonnes questions. Je me rappelle d'une interview de Kobe Bryant qui parlait du manque de travail des universités américaines et de la NBA. Ouais. Et ça a porté ses fruits. 5 ans après, la NBA, c'est devenu exceptionnel. Mmh. On est en Europe... ou dans tous les autres continents du monde, on est, nous, à essayer de marquer à 3 points ou de shooter sans défenseur. C'est-à-dire toutes nos formes de jeu, elles sont calquées pour un shoot sans défenseur. La NBA, tellement que ça va vite...
C'est-à-dire libérer au maximum le joueur qui va shooter pour qu'il ait un champ libre devant lui pour shooter tranquillement.
Exactement. Aujourd'hui, la NBA, c'est pas possible, ça, parce que les joueurs vont tellement vite. Et il y a une lecture, une compréhension du jeu défensif qui est exceptionnelle.
Il faut savoir que...
On parlait tout à l'heure du switch... Parce qu'on parlait d'un intérieur qui faisait écran pour libérer son joueur extérieur. Mais ça va changer, ça va lire tellement le jeu rapidement que c'est les ailiers à l'opposé qui vont venir changer pour pas qu'il y ait mismatch. Quand on parle de mismatch, c'est quand il y a un petit sur un grand ou un grand sur un petit. Mmh. Donc c'est tellement intelligent la NBA aujourd'hui. C'est pour ça que ce Tyronn Lue, non, il a le socle de connaissances. Le problème, à un moment donné, c'est quand t'es coach, tu peux avoir les connaissances. Mmh. Ou tu peux avoir même beaucoup de connaissances, mais ça se passe pas avec des joueurs. Parce que un bon coach n'est pas bon avec toutes les équipes. Popovic, tu le mets à Cleveland, ça va pas du tout marcher.
Il faut dire aussi qu'Atlanta a pris un coup de chaud monumental. C'est arrivé 2 fois dans la ligue, ce fait de revenir de 23 points.
Troisième plus gros comeback de l'histoire de la NBA.
Voilà, c'est ça, ça arrive pas tout le temps. Donc, il y a eu un coup de chaud de Cleveland. Il y a eu un coup de chaud de Atlanta, je veux dire. En playoff, moins 23 au quatrième quart-temps, le match est terminé en tout cas. Là, c'est parce que là, on est en saison régulière et que les défenses sont différentes, mais en play-off, on arrive au vrai jeu de basket et tout est différent. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime pas juger sur la saison régulière, mais plutôt sur
les play-offs. Mais là, tu peux considérer que c'est la fin de saison parce que les derniers matchs NBA, c'est-à-dire du 78 match au 82 match, c'est les play-offs. On peut pas considérer que c'est pas les playoffs parce que c'est le début, c'est l'intronisation des playoffs. Ouais. Et ça commence à travailler dur. Le problème, là, c'est là que tu vois que ce coach a quand même un manque. C'est-à-dire que tu peux pas prendre 26 points en 5 minutes. Tu ne peux pas, c'est interdit. C'est-à-dire que tu demandes un temps mort, ils ont le droit de plus de temps mort. Ouais. Et tu places ta stratégie. C'est-à-dire quel joueur il a mis en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce coach-là, c'est un bon coach peut-être, mais c'est aussi l'ami des joueurs. Comment être ami des joueurs et prendre des mauvaises ou des bonnes décisions?
Pas très âgé après, elle a 39 ans.
39 ans, c'est l'ami des joueurs. S'il a été mis là à ce poste-là, c'est parce que les cadres de l'équipe l'ont demandé. Les et les cadres, c'est pas que LeBron James, parce que tout le monde va dire LeBron James, c'est le cadre. Non, c'est pas qu'un cadre, parce que ça se voit, c'est un joueur qui est derrière. Il y a d'autres personnes dans cette équipe-là, mais nous, on n'est pas à l'intérieur du vestiaire qui tire les ficelles de cette équipe-là. Il faut savoir qu'il y a des gens influents dans cette équipe-là, des joueurs plus influents que LeBron James. On l'a vu au Heat, LeBron James. Il était derrière.
Plus influent que LeBron James.
Beaucoup plus influent. Regarde quand il était à Miami. Il a toujours été derrière. Comment il s'appelle ?
John Wade.
Parce que, en termes d'influence, d'aura, il a beaucoup moins d'influence, moins de charisme que tous ces joueurs-là. Et c'est un mec, c'est un bon mec, LeBron James. C'est un mec qui va travailler, il va s'entraîner dur. Mais aussi, c'est quelqu'un. Et c'est un bon mec. Mais c'est pas le leader de son équipe, c'est le leader charismatique, statistique. Mais on sait qu'un patron, c'est pas ça. Il s'est déjà, on n'a jamais vu Jordan se disputer en plein match avec Steve Kerr.
Ouais, ça c'est sûr.
Ça n'existe pas. Jordan, il a déjà mis une droite à l'entraînement à Steve Kerr. Mais jamais un match, parce que le patron, c'était Jordan. Quand il levait les yeux, il disait stop, c'est stop. On a vu le monde se disputer avec ses joueurs. Jordan, tu l'as jamais vu faire ça. Isaiah Thomas, à l'époque. Charles Barkley, tous ces joueurs-là, c'était des joueurs fantastiques, ou même Karl Malone, c'était les patrons de leur équipe. Et lui, en réalité, mais on ne sait pas, là, c'est que des suppositions, c'est pas le patron de cette équipe-là.
Alors, qui serait le patron pour toi, de cette équipe?
Je pense qu'il y a Jefferson qui a beaucoup d'influence au niveau du vestiaire, aussi. Parce qu'il est, il est vieux, il a de l'expérience, il a sa bague. Et c'est, pour moi, c'est lui qui a le répondant, en tout cas, face à LeBron James, et qui peut lui dire quoi faire ou quelque chose comme ça. On avait vu sur des caméras braquées sur lui où il parle beaucoup aux joueurs, il parle beaucoup au banc, il parle beaucoup à LeBron James, qu'il écoute aussi. Mais ouais, je vois que lui, parce qu'après, sinon, l'effectif reste jeune. Je vois pas Kyrie Irving avoir une telle influence ou J.R. Smith. Donc non, je vois que Jefferson. Mais après, oui, comme il disait, oui, LeBron James a l'assurance charismatique, il a l'influence, c'est sûr. Mais au niveau des systèmes, au niveau de l'influence, ouais, on voit qu'il y a d'autres joueurs, c'est sûr.
Parenthèse historique rapide, Gilles, puisqu'on parlait de Tyronn Lue. Tu sais, il m'avait marqué ce mec, je sais pas pourquoi. Il excelle lors des playoffs en 2001. En raison de sa rapidité, l'entraîneur donc de Los Angeles à l'époque, Phil Jackson, lui donne la lourde tâche de s'occuper d'Allen Iverson en défense. Ouais. Peu connu du public, il devient rapidement une des têtes d'affiche des séries pour son travail extraordinaire en défense contre le meneur des Sixers de Philadelphie. La victoire des Lakers en 5 matchs contre Iverson et les Sixers leur donne leur deuxième titre d'une série de 3 consécutifs.
Ça me fait penser un peu à Mathieu Dellavedova, je ne sais pas si vous en rappelez.
Oh là là, t'as sorti des noms. J'allais dire oui.
Non, c'est un meneur aussi qui est sorti comme ça par rapport à la finale de... Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans.
Dernière, face l'année
à,
dernière.
Ouais. C'est l'année... Non, l'année dernière, c'est là où ils ont gagné le titre, les Cavs.
Oui, mais il avait été bon. C'est là qu'il voilà avait tenu.
Mais où il avait défendu en fait sur Stephen Curry.
Mais c'est ça en fait.
Ouais, voilà. Ouais.
Non, c'est des joueurs en fait qui ont fait un coup.
C'est ça en fait.
Ils n'ont pas été forts. Mais je me rappelle parce qu'en fait c'était le seul joueur qui était. Mais c'était vraiment un pot de colle. Il lâchait pas Iverson.
Mais c'était la chance de sa vie. Il défendait à l'époque contre le meilleur joueur du monde qui était blessé et qui a fini peut-être ses playoffs à plus de 40 points de moyenne. Il était tout seul.
Allen
Iverson à cette période-là.
Ouais, il portait l'équipe.
Il portait réellement l'équipe. Il était tout seul.
Mais c'était assez impressionnant. Je me rappelle.
Personne, parce qu'au début, le premier match, je crois, c'est Kobe Bryant qui défend sur lui, il s'amuse avec lui. Il a joué avec lui. Non, là, il a juste étouffé parce qu'on avait Iverson qui était blessé à l'épaule. Il avait la cheville en vrac, l'épaule en vrac. Donc ça
avec un mec qui te lâche pas en plus.
Un mec qui te lâche
parce
pas.
Parce qu'il est petite taille, c'était un hargneux. Quoi, tu vois, là, mais bon, bref.
Bon, messieurs, on va s'amuser au jeu des pronostics vu que les playoffs commencent bientôt. Donc, pronostic, Noradine, tu sors.
Parce que moi j'allais dire l'étoile.
Ah bon, fait,
le SCT. Hein,
est-ce qu'il y a une équipe, Baptiste, Nasser, Nouradine, qui vous a plus impressionné vraiment cette saison en NBA et que vous voyez aller très 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 loin en playoff?
Faut attendre le premier tour des playoffs. Le premier tour sera important. Parce que c'est là qu'on va voir réellement ce que sont capables les équipes. Parce que tu as des équipes qui sont parties au début, qui étaient mi-figue et raisin, comme Golden State, même s'ils ont fait des hauts et des bas. Mais on va voir Golden State en playoff, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Mmh. Parce qu'en réalité, sur le papier, Golden State doit être champion cette année.
Ouais. Alors, ils se sont mieux préparés, en tout cas, que la saison dernière, les Warriors d'Oakland. Parce que souvenez-vous, l'année dernière, ils étaient sur le record, là, le 72-10, qu'ils ont battu. Ouais. Et ils sont arrivés carbonisés en playoff. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ils étaient en roue libre, entre guillemets, durant toute la saison, avec une gestion des temps de jeu bien plus optimisée. Mmh. Kevin Durant...
Quelques petits coups d'éclat de temps en temps.
Oui, oui.
Sans forcer le talent. Ouais.
Voilà, et puis ils se sont testés. Enfin, ça a été un entraînement d'une saison pour le trio Durant, Thompson, Curry.
Je suis d'accord. L'année dernière, Steve Kerr a fait une erreur parce qu'il faisait partie de cette fameuse équipe NBA avec qui avait obtenu ce record de
72 victoires, 10 défaites.
Voilà, 72 victoires, 10 défaites. Là, il pouvait battre ce record, donc il l'a battu,
ouais.
Mais il s'est grillé pour la saison. Parce qu'il faut savoir que les Chicago Bulls, quand ils ont battu ce record-là, les 5 derniers matchs, ils étaient en roue libre. Mmh. C'est pour ça que ce n'est pas comparable. Ils étaient déjà en roue libre, c'est-à-dire que Jordan, lui, il était là pour gagner des titres, pas pour gagner des titres honorifiques. Il n'y a que les bagues qui comptent. Les champions de conférence, meilleurs scoreurs, meilleurs rebondeurs, meilleurs passeurs, gagner, rentrer au Panthéon en dépassant Oscar Robertson. Qui connaissait Oscar Robertson ici avant le début de l'année? Si personne n'avait...
Non, dis pas avant le début de l'année, dis avant que je dise l'article de l'équipe qui dit que Westbrook a battu le record.
Tu vois, c'était... Ces gens-là, non. On les oublie rapidement, il n'y a que les titres. Jordan, on ne l'oubliera jamais parce qu'il n'a perdu aucune finale. Quand il a commencé à gagner en 91, il n'a plus jamais perdu. Quand il est revenu, il a gagné. Hein. Ouais. Il a perdu avant. Ouais, mais avant, il y avait des vraies équipes. Il y avait
Boys, Détroit. Il en a perdu moins 5. Ouais.
Non, 2.
Il y avait deux campagnes de playoffs.
Voilà, il y avait les Lakers, il y avait Boston, il y avait ces trois équipes parce que ça a été Boston-Lakers. Et après, Détroit a pris le pouvoir. Voilà. Et après, c'était fini. Ouais. Chicago a tout raflé. Mm-hmm. Houston a gagné 2 titres et quand Jordan n'était pas là. Mais voilà, simplement, c'est pour ça que les titres, et voilà, les titres, c'est ce qui donne la puissance à un joueur, qui donne sa valeur à un joueur. Mm-hmm. Barclay, sinon on peut parler de Charles Barclay, qui était l'un des plus grands joueurs, mais il a perdu 2 finales, ou une, il a dû aller à Phoenix pour gagner, tu vois, pour essayer de gagner une finale. Il est parti après à Houston, c'est pour ça... Est-ce que Westbrook sera capable un jour de gagner un titre, porter une équipe? Est-ce qu'on sera capable de faire une équipe autour de lui?
On sait va partir.
Voilà. Mais partir, quand il y avait Kevin Durant avec lui, il n'était pas capable.
Ouais, ils sont partis en finale contre Miami, où ils ont perdu face à LeBron James.
En finale de conférence.
Non, en finale NBA. OKC Miami avec leur trio avec James Harden, Kevin Durant et Russell Westbrook. Ils ont perdu contre un LeBron James avec Wade et Bosch, intenable vraiment. Mais on s'est dit que l'année d'après ils allaient le faire, mais bon, ils ont pas réussi, ils se sont fait
parce qu'ils ont coupé Harden, ils ont laissé Harden.
C'est ça
partir,
oui, on pouvait pas rester. Oui, ils pouvaient pas rester à cause de la masse salariale, ouais.
Ouais, donc toi, Baptiste, tu vois une équipe particulière là cette saison qui...
Ouais, San Antonio me fait très très peur, vraiment. Il y a San Antonio qui...
Dans quel sens?
Non, pour gagner le titre, parce qu'au niveau des systèmes, ils sont en place. Popovic, au niveau des systèmes, voilà. Ils ont une équipe qui... assez vieillissante, mais avec beaucoup d'expérience en tout cas. Et on voit que Kawhi Leonard tient bien la baraque au niveau défensivement qu'offensivement. Je pense qu'ils peuvent... C'est vraiment l'équipe qui peut éteindre... qui peut éteindre JS en fait, tout simplement, parce qu'au niveau du duel en fait entre Kawhi et Kevin Durant, je pense que Kawhi Leonard est le seul dans la ligue qui peut défendre sur Kevin Durant. Et sur les postes 1-2, c'est-à-dire Curry et Thompson, je pense qu'ils peuvent se faire trapper, qu'ils peuvent se faire piéger et perdre cette série. Donc je vois bien San Antonio, mais arrivé en finale, San Antonio Cavs, je vois un back-to-back des Cavs, je sais pas pourquoi. LeBron James fait toujours son back-to-back, il l'a fait à Miami. Il avait perdu sa première finale et ensuite il en a gagné 2. Je vois bien les Cavs.
Les Spurs, Nasser, cette saison, première année, enfin année post retraite du grand team Duncan. Bon, ils sont quand même ultra performants encore. Hein. Il y a un collectif très fort dans cette équipe avec toujours le coach Popovic à la baguette.
Oui, mais c'est normal, les cadres n'ont pas bougé. Les cadres n'ont pas bougé, chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il a à faire. Il n'y a personne qui réinvente un basket.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il n'a pas de gestion, d'ego à faire tout au long de l'année. Il l'a faite pendant la transmission avec les Parker, les Ginobili et les Tim Duncan. Donc ça a été fait parce qu'un Parker, je ne pense pas qu'il ait accepté d'être une cheerleader, entre guillemets. Hein. Je suis bien entre guillemets, une cheerleader. Ce qu'on appelle une
pom-pom girl.
Voilà. Là, aujourd'hui, il est là pour donner la balle, c'est bien. Mais ça a toujours été ce type de joueur-là, tu vois. Là, aujourd'hui, il le fait. Il a pris conscience que c'était la fin et que tout le monde est en place, quoi. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel aujourd'hui. C'est qu'il joue un basket qui est léché, c'est-à-dire que ça joue en 5-6 passes. Ça ne joue jamais en 2-3 passes. Après, Kevin Durant, Kawhi Leonard, sur ce duel-là, les Spurs, c'est pas sur un duel, c'est un duel collectif.
Ouais,
défensivement, c'est un duel collectif. Mais après, Golden State, ils sont à un tel niveau quand ils commencent à être à droit. On peut défendre comme on veut, on peut switcher comme on veut. Si t'as t'as Thompson, t'as
Curry,
t'as Green, et t'as Kevin Durant qui commence à mettre dedans, et en plus qui joue propre.
Ils perdent beaucoup de balles et ils ont une grosse lacune en fait au niveau de la raquette en fait avec Zaza Pachulia en fait qui ne défend pas au mieux en tout cas. Donc je pense que c'est sur ce secteur-là qu'ils peuvent se faire prendre parce qu'on voit que San Antonio au niveau de la raquette c'est très solide avec Pau Gasol, la star espagnole. Pau Gasol, ils ont LaMarcus Aldridge aussi qui peut shooter au large et ils ont un nouveau là qui vient d'arriver dans la maison Spurs qui s'appelle Deadmon. Qui est un pivot supersonique, en fait, super rapide et super physique, qui peuvent, en fait, faire énormément de mal à Golden State, en fait. Donc, Golden State, s'ils sont à droit, c'est injouable. Mais en playoff, on voit que les pourcentages de tir baissent et que le jeu se tend plus vers la raquette. Et sur ce côté-là, je pense que San Antonio a l'avantage, ouais.
Je suis pas trop d'accord. Parce qu'ils jouent small ball. Donc, quand tu joues small ball, ton jeu, c'est de jouer petite taille. C'est-à-dire, si t'es un big man, il est là juste.
Small ball, c'est la traduction de petit bras?
Small ball, quand on dit small ball,
c'est 4 joueurs de petite taille.
Même ton intérieur est petit, on va jouer beaucoup en passing. Il va avoir énormément de passes, beaucoup de shoots, beaucoup d'un contre un. Et aujourd'hui, quand tu as des intérieurs comme Green qui sont ailiers, qui jouent 3, 4, 5 des fois, quand tu n'as pas des intérieurs qui dominent réellement et qui ne sont pas hyper techniques, se prendre Green en défense qui est dur, qui est hargneux, qui sait comment gagner des titres, parce qu'il en a gagné même à l'université, lui, le jeune. Hein.
Ouais. Donc, il sait comment perdre aussi.
Donc, tu sais, c'est difficile de jouer ces équipes comme Golden State. Après, il y a quand même un nouveau joueur dedans, c'est Kevin Durant. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une mauvaise idée qu'il vienne, parce que l'équipe, elle était extrêmement forte. C'était suffisant. C'était largement suffisant. Là, ils ont décidé, ils ont tenté un risque.
Ça n'a pas fait progresser l'équipe pour toi.
Non, ça ne fera pas progresser l'équipe parce qu'ils étaient à un tel niveau d'adresse et d'homogénéité et en plus de sensation quand tu as Thompson et Curry qui shootent.
On voit que même quand Kevin Durant n'était pas là, Golden State a enchaîné 13 victoires d'affilée. Donc voilà, on voit que son apport est certes significatif au niveau du match, mais sans lui, la maison tourne très bien. On voit que l'année dernière, sans Kevin Durant, ils avaient un bench, leur banc, qui était leur joueur du banc, qui était super fort, qui a apporté un nouveau souffle. Et on voit que là, avec Kevin Durant, ils ont plus ce banc-là, en fait.
De toute façon, il jouera, quoi qu'il en soit. S'il n'est pas blessé, il est dans le 5.
Ça, c'est sûr. Mais ils ont dû faire partir leur banc. Et il manque un peu d'homogénéité, en tout cas, au niveau de l'équipe, je trouve.
Bon, messieurs, au niveau des révélations cette année en NBA, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont agréablement surpris? Bon, on peut penser à Giannis Antetokounmpo. Des Bucks de Milwaukee, Joel Embiid, des Sixers, ou encore Andrew Wiggins qui confirme plutôt sa première bonne saison avec Minnesota. Qu'est-ce que t'en penses, Nasser? Est-ce qu'on voit là, par exemple, à travers Joel Embiid, un futur grand de la NBA?
Moi, je suis désolé, mais pour moi, la NBA compte quand les playoffs commencent.
Il n'y a pas de grands encore.
Les grands, tu deviens grand quand tu commences à gagner des matchs. Tu passes des tours. C'est bien d'être mignon, de marquer 20 points, 25 points, 26 points, mais tu passes pas de tour. Tu sors en 3-0. Ouais, tu mets des points. Tu mets des points. T'es mignon.
Bon, il va falloir que certains joueurs changent de franchise à l'intersaison, alors.
C'est ça, ouais.
Non, mais au moins, tu peux rendre... Je me rappelle, Batum, il m'avait impressionné, c'était ses premiers playoffs où il avait été excellent en playoffs. J'avais été même surpris parce que je n'étais pas fan de Batum. Et là, je l'avais vu défendre, j'avais vu prendre des rebonds, mettre des points importants. C'est là que tu vois un joueur, l'influence qu'il peut avoir sur son roster, sur la franchise. C'est important. C'est des matchs qui comptent parce que, tu sais, quand tu as 82 matchs, à la fin, tu fais tes matchs. Mais la gestion des matchs au coup près, c'est là où tu vois les grands artistes, les champions. Parce que tu dois gérer tout ça. Tu dois gérer tes collègues, tu dois gérer ton banc, tu dois gérer le public, tu dois gérer les journalistes qui sont autour de toi, les gens qui attendent après toi. Voilà, il y a plein de grands joueurs aujourd'hui en NBA. Ils sont, d'abord, c'est simple, tu prends les 10 joueurs en NBA, plus le banc, les joueurs de la 10 ligue même, c'est tous des grands joueurs.
Yes,
c'est simple, il faut savoir que le MVP de l'année dernière, c'est Nando Docolo en Europe, en Euroleague. D'accord ? Et qui risque encore d'être MVP de l'Euroleague. C'est quelqu'un qui ne peut même pas se mettre sur un banc NBA.
Ouais.
C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. On ne peut pas comparer ces deux baskets. Parce que
mental ou basket pur ?
Mais basket tout. Parce qu'aujourd'hui, on nous a toujours dit l'Euroleague. Parce que beaucoup en français, on se cache derrière l'Euroleague. Même si on n'a aucun club français qui soit en Euroleague. Mais l'intelligence de jeu en NBA, ça y est, c'est...
C'est un autre niveau.
C'est un autre niveau. C'est vitesse, c'est intelligence, c'est adresse, c'est tout. Qu'on n'y parle plus. J'aime bien l'Euroleague. Mais tout est lent. Je peux regarder un match et après tu regardes un match Euroleague, c'est simple, tu regardes 10 matchs Euroleague, tu regardes un match NBA, t'as pas... les 10 matchs tu les compenses, c'est pas la même chose. En termes de compréhension, de défense, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu regardes un match NBA, avoir des gens qui défendent aussi bien, avec une stratégie aussi bien organisée, avoir des gens comme Curry capables de shooter sur des joueurs qui défendent, qui ont la main sur toi, c'est comme si au foot tu me disais: je shoot à 30 mètres, je frappe à 30 mètres, mais avec deux défenseurs sur moi. C'est difficile.
Ouais. Déjà, tu frappes pas à 30 mètres. Souvent.
Tu vois ? Alors, c'est ça. Aujourd'hui, la NBA.
Shoot, ouais, c'est vraiment
la NBA, c'est ça.
Comparer, ouais.
Après, la NBA, c'est
le
ça.
Terrain,
ils ont appris à shooter sous pression. Ça, c'est sûr.
Mais c'est pas que sous pression, parce que nous aussi, on peut essayer de défendre sous pression, mais quoi, on va exploser. C'est pas pareil. C'est que depuis tout jeune, quand tu rentres dans une fac, quand tu rentres en high school, tu vas du lycée à la fac. Le travail qui est fait est exceptionnel en termes de compréhension du jeu. Parce que toujours, on a souvent entendu, et ça les journalistes parlaient de ça, des journalistes sportifs, parler de l'intelligence de jeu en Euroleague, soi-disant qu'il y aurait de l'intelligence en Europe et pas d'intelligence.
Et là-bas, c'est les bourrins balèzes qui vont
voilà,
vite.
Voilà, qui vont vite. Et en plus, entre guillemets, excusez-moi, je vais peut-être défrayer la chronique, et qui sont noirs en plus. Non, faut arrêter.
Ça va ensemble.
Voilà. Donc, c'est des bourrins, ils vont vite, ils vont haut, ils réfléchissent pas. Non, aujourd'hui, c'est exceptionnel. Le meilleur joueur de tous les temps. Il y a Magic. Bon, j'aime bien Magic, excusez-moi, mais Magic Jordan, on n'en fera plus des joueurs comme ça. Avec une intelligence, une compréhension du jeu, de la puissance physique, tout, de l'intelligence. C'est exceptionnel. C'est de l'ordre. Aujourd'hui, la NBA, c'est devenu exceptionnel.
Mais ce qui est paradoxal, Nasser, c'est que les clubs pro en Europe s'entraînent plus que les clubs aux États-Unis, puisqu'aux États-Unis, bon, on joue tous les 2-3 jours. Ouais. Et on joue une fois par semaine en Europe et on s'entraîne toute la semaine. Alors, c'est quand même assez paradoxal.
Ouais, mais
la semaine, on n'arrive pas à
demander à l'entraîneur si c'est pas mieux de jouer finalement.
Non,
régulièrement.
Moi, je sais qu'on a essayé de changer les méthodes d'entraînement chez nous, on les a changées. Et quand on a commencé à changer les méthodes d'entraînement, on nous appelait coach Carter, coach ceci, coach ceci. En France, on
ironiquement.
Non, on n'a pas l'habitude de travailler. Ouais. Ça ne travaille pas dur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir des équipes, des joueurs qui commencent en septembre, et tu regardes à la fin de l'année, il n'y a aucune progression. Tu regardes dans plein de clubs où il y a des qualités athlétiques, où il y a plein de choses, tu vois des joueurs en début d'année et tu les vois à la fin de l'année. C'est toujours les mêmes joueurs. Ils n'ont pas progressé d'un iota. Le travail, c'est pas le même. Les entraîneurs, c'est pas le même. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure.
Le nombre de personnel aussi, hein, parce qu'à NBA,
c'est pas que
le
nombre de
personnel.
La NBA, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'il y a 27 clubs. Mais non, c'est 27, c'est 27
oui,
services.
C'est des services. Sûr.
Et il y a un travail qui est fait
ouais.
en commun pour rendre les joueurs meilleurs et une compréhension meilleure. parce que c'est un business. Mmh. Aujourd'hui, en France, tu prends France, l'Italie, l'Espagne, c'est les fédérations qui gèrent ça, c'est pas les entreprises. C'est-à-dire, elles vont gérer l'ensemble de la connaissance technique à l'intérieur d'un propre territoire mmh. et transmettre ce savoir-là. Mais après, les clubs, c'est chacun. Comme chacun travaille comme il le veut.
Ouais.
Mmh. Alors que là-bas, non. C'est-à-dire que même tout est sur logiciel. C'est-à-dire que tu vas voir... Toi, t'es à Chicago, tu vas voir tous les matchs... tu vas voir les matchs des Lakers, tu les as. Ouais, tu veux savoir comment Popovic y joue, t'appuies sur un bouton. Ouais. C'est-à-dire que les plays de San Antonio... Les coachs de toutes les franchises les ont.
Ils les ont, ouais.
Même les méthodes d'entraînement, ils les ont.
Mais en France, je sais pas si c'est comme ça. C'est,
non,
c'est
ça sera jamais comme voilà. ça. Donc c'est pas possible. Même le travail, tu prends... Travailler dur, c'est dur de travailler en NBA. Hein. Mmh. Faut savoir que c'est du travail. Comment un joueur est capable de travailler 2 à 3 heures par jour ? Quand l'été arrive en NBA, après... Les playoffs, les finales, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils partent pas en vacances, ils travaillent.
Ouais, c'est là qu'on fait le plus gros du travail.
Et c'est là que tu bosses aussi.
La mise en place
ils travaillent individuellement, mais c'est avec, ouais. C'est avec les entraîneurs NBA qui bossent. Ouais. C'est avec les préparateurs physiques de la NBA, les entraîneurs, les assistants. Tu vois? Non, c'est vraiment... Et ça, même en France, ça va changer, parce que là, on s'aperçoit de plus en plus en France, par exemple, il y a énormément de stages de remise à niveau. C'est-à-dire où des pros viennent, ils travaillent, il y a des coachs étrangers. La trappe, en principe, on va voir si on est à la salle ou pas. Mais on a l'un des plus grands entraîneurs.
De Phil Jackson qui vient.
Non. L'un des plus grands formateurs européens, qui s'appelle Boris, et qui doit venir peut-être sur trappe pour, avec que des joueurs pros, et travailler sur 2 mois sur la ville. On va voir si ça va être possible ou pas.
Si vous faites ça, c'est bien.
Oui, mais ça, on l'a fait l'année dernière déjà. Mmh. Mais voilà, là, c'est différent. Après, c'est comment tu vas travailler. Après, tu vois, après, il y a l'aspect aussi athlétique. Comment tu allies la force physique, la muscu, ceci, cela, à la compétition au terrain? Nous, quand on fait de la préparation, aujourd'hui en France, souvent, on emmène nos joueurs de basket sur une piste d'athlée. Mmh. Comme si on faisait de l'athlétisme. C'est pas les mêmes courses. Mmh. Quand tu cours un 100 mètres ou un 800 mètres, c'est pas les allers-retours qu'on va faire sur un terrain de basket qui fait 30 mètres. Tu vois, c'est complètement différent. Donc, il y a toute cette pensée en NBA qui est... C'est science. Tout est pensé. Rien n'est laissé au hasard. C'est un vrai travail.
Très bien, messieurs.
Pour toi, rapidement, un entraîneur, n'importe lequel en France, qui arrive à imposer une méthodologie de travail comme la NBA, le club français en question devient un champion, devient imbattable. Si c'est le seul à vraiment...
Mais après, 100%,
moi évidemment, pas avec... Il faut que les joueurs sachent un peu quand même.
Intrinsèque bon, aussi, des joueurs. Hein,
mais bon, maintenant, il faut que les joueurs l'acceptent, mais après, il y a le travail. Est-ce qu'une personne qui a déjà un vécu, qui a déjà 5-6 ans de carrière, qui sait qu'il a 2 entraînements, comme tu le disais, j'ai 2 entraînements par semaine, par jour, il vient le matin, il prend son petit café, il arrive à 10h, il fait sa séance de shoot pendant 1 heure, et il retourne à la sieste et il revient à 16h faire sa séance de shoot tranquillement. Est-ce qu'il va accepter de s'entraîner comme ils font par exemple les Hugo, où ils sont capables de s'entraîner 5 heures par jour 5 heures par jour, c'est-à-dire qu'ils restent au gym, ils mangent au gym, ils font leurs muscles au gym et après ils rentrent. C'est un vrai métier. Regarde Laurent Ciara par exemple, quand il est parti en Grèce, il est resté 4 mois là-bas. Laurent Ciara, c'était l'un des meilleurs meneurs français. Il pouvait pas. Il était avec Vusco, il ne pouvait pas travailler avec lui. Parce que c'était trop difficile. Il ne l'a jamais supporté. C'est vraiment, il faut vraiment supporter la charge de travail. Mais ça devient un métier. Et nous, aujourd'hui, moi je pense, et je le dis sincèrement, les basketteurs, en France, pour moi, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Vu comment on s'entraîne, c'est pas un métier. On le voit. Tous les jours, on a des joueurs de Pro A, de Pro B qui descendent dans les divisions inférieures. En National 2, National 3, National 1, ce qui domine. Est-ce qu'un joueur qui a joué en Pro B, qui a fait toute une carrière en Pro B, va venir en National 2 ou National 3 et dominer? C'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare.
On a le même débat avec le foot, j'ai l'impression.
Messieurs, on va prendre un petit temps mort. Je propose qu'on prenne un petit temps mort. On va respirer quelques minutes et puis on va revenir pour le dernier quart-temps. Et puis Nouradine va nous annoncer la prochaine venue de Philippe Lucas pour qu'on
fasse. Pour parler sport.
Voilà. Et oui, c'est ça le travail, messieurs. Allez, on se retrouve sur un MeetFM dans quelques minutes. À tout de suite. Come on and talk to me, I will try my utmost to be honest with you, try to be honest with you every single one. Come on and talk to me, I will try my utmost to be rhythmical, try to be rhythmic. Come on and talk to me, I will try my utmost to be honest with you, try to be honest with you every single one. Come on and talk to me, I will try my utmost to be rhythmical, try to be rhythmic. Come on and talk to me, I will try my utmost to be honest with you, try to be honest with you every single one.
someone else. Now you got me feeling so sorry for something I didn't do. You had me crawling round the gutter when I should have been busy making love to you. So it's all smooth and over. You cover your ears real tight. Is it up to me to be telling the black from the white? Talking to you. So what matters most in the end is beyond our fickle reach. How to unfold all the mysteries. It takes a different kind of species. I'm unable to handle the weight of all of your clouds put into words. Now you got me feeling so stupid when I couldn't understand. You got me reeling round in circles.
De retour sur Marmite FM 88.4 dans l'émission Parlons Sport. On est en direct pour encore quelques minutes d'émission et on va laisser la parole à Nouradine pour les infos sport locales.
Ouais, rapidement Gilles, on commence avec du foot. Match en retard, comptant pour la 15e journée de championnat de division d'honneur et une victoire qui fait du bien aux Versaillais puisqu'ils s'imposent 2-1 à domicile contre les Gobelins qui eux sont 3e du championnat. 3 points donc qui permettent aux Versaillais de prendre 7 points d'avance sur le 2e du championnat, les Mureaux. Un autre match en retard, c'est pour Trappe cette fois-ci en promotion d'honneur. Les Bleu Ciel qui ratent l'occasion de se rapprocher de la tête du championnat en concédant le nul à la maison contre une modeste équipe de Puteau, modeste puisqu'ils sont 12e du championnat. Trappe est 3e avec 56 points à 7 points du leader, donc l'équipe réserve de Boulogne. Il jouera un autre match en retard le week-end prochain avec un déplacement sur le terrain de l'équipe réserve de Torcy. Donc c'est l'occasion pour Trappe de se rapprocher voilà, de cette première place. Ils sont à 7 points seulement, donc avec une victoire, il ne serait plus qu'à 4 petits points, à 3 petits points pardon, de cette place et peut-être de la montée. Allez, on enchaîne avec du basket, 21e journée championnat de National 3, donc l'équipe de notre invité, et Trappe qui s'est imposée à domicile contre Biorel, donc le score 88 à 82. Les autres équipes évelinoises, Poissy, qui s'impose 89-68 face à Marly-le-Roi. Du coup, Poissy en tête avec 38 points, à égalité de points avec Sceaux. Troisième, c'est Évreux avec 37 points. Quatrième, Val-de-Sienne. Cinquième, Orme. Et Trappe qui est sixième avec 32 points. Bon, Marly est son neuvième avec 28 points. On termine avec basket féminin en National 2. Du coup, elles ne monteront pas, hein, les filles de l'entente Le Chesnay-Versailles. puisque même malgré pardon leur victoire, belle victoire hein, sur le parquet de Bourges ce week-end, 56-49, elles sont quatrième avec 35 points. Leader, c'est toujours Sceaux avec 39 points. Le deuxième, c'est le Stade Français Basket, 36 points. Et Alençon qui est troisième avec 36 points. Et il ne reste qu'une journée de championnat. Voilà, en National 3, en National 2.
Merci Nouradine, on va tout de suite faire la passe décisive pour toi Nasser. Bon, je sais pas si elle est aussi propre que celle de Stockton, mais bon, il reste un match comme l'a dit Nouradine. Quel bilan fais-tu là de cette saison? Bilan positif.
Et est-ce qu'il n'y a pas des regrets justement au vu de la saison?
D'un point de vue statistique, on rappelle bilan positif, hein, ouais. 11 victoires, 10 défaites. Nasser.
Des regrets, c'est qu'on a perdu deux gros joueurs. On a Edgar Missengue qui n'a pas fait un match cette saison. Parce que voilà, on est dans une ligue amateur. Donc priorité au travail. Donc notre meilleur joueur n'a pas pu participer à toute la saison. Je pense qu'on a perdu, on a 6-7 matchs qu'on n'aurait pas eu, 6-7 défaites qu'on n'aurait pas eu avec lui. Et en plus, on a perdu Abdelaboun. Il y a des problèmes. Problèmes de santé qui peuvent être un petit peu graves parce que c'est des problèmes de sang. Donc il n'a pas pu être présent, il a eu beaucoup de blessures, on ne savait pas pourquoi il avait énormément de déchirures. Donc oui et non, on n'est pas déçu, on est déçu d'être 5e ex-aequo, on va dire. Mais voilà, on est à notre place, sachant qu'on avait deux joueurs importants qui n'étaient pas présents. On a su tenir quand même, gagner les matchs importants pour nous hisser à cette 5e place.
Parce maintenant, qu'avec un effectif complet, on peut quand même aller titiller Poissy.
On les a battus, Poissy.
Ouais,
hein.
Bien battu même, d'ailleurs.
au match retour, après quand même une défaite un peu sale en ouverture du championnat.
C'était normal, mais pourquoi sale? Parce que c'était notre premier match de championnat. Il faut savoir que nous, on a, au club de Trappes, on a énormément de difficultés financières. C'est-à-dire qu'on est... Après notre descente en National 2, après notre finale de championnat de France, on est descendu en National 3, on a eu des problèmes avec la Fédé. Bon, bref, je passe... tout ce laps de temps, donc on passe de monter en National 1 à descendre en National 3. Ce qui se passe, on perd énormément de subventions, mais on a des joueurs sous contrat qu'il faut quand même payer. Donc on a eu des gros soucis financiers pendant ces trois années-là, et donc là aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se reconstruire doucement. Parce que les subventions, c'est plus ce que c'est hein. Aujourd'hui... le sport de haut niveau n'est pas la priorité de la ville nouvelle. De la
si,
vie nouvelle.
Justement, le sport de haut niveau est la priorité, mais apparemment le basket n'en fait pas partie.
Voilà.
Si on formule comme ça.
Voilà. Donc nous, on nous avait parlé de sport de haut niveau. Donc on nous avait contacté, qu'on voulait du sport de haut niveau, on voulait voir une équipe de haut niveau dans la région. Ce qui se passe, nous aujourd'hui, notre subvention, elle est, on n'a pratiquement pas de subvention de la Kaski, très peu. Pour un sport comme le nôtre, aujourd'hui, on sait que si je prends par exemple l'exemple de Cergy Pontoise, qui est un petit peu comme nous avec un syndicat d'agglomération de plusieurs villes, quoi, c'est 10 fois le budget qu'on a. Et nous, si on a failli monter en National 1 avec un budget de 250 000 euros.
Donc, concrètement, ça représente. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 250 000 euros
Dans sa club de National 3 envers toi. Ah non, c'est un club de National 3. Mais voilà, on a failli monter avec. On a perdu contre La Rochelle, on a failli monter avec un budget de 250 000 euros. Là, on se trouve plus à 120 000 euros de budget pour un club de National 3. 250 adhérents, 17 équipes, des déplacements. C'est.
Alors, est-ce que maintenant l'équipe de Trappes fait partie de ces nombreuses équipes yvelinoises qui nous disent au micro, on n'est pas intéressé pour monter trop vite aux premiers échelons parce
qu'on
n'a
pas les
déplacements, on n'a pas de subvention, on ne peut pas assurer les déplacements, donc on va faire faillite, ça ne nous intéresse pas.
Moi, la 5e, 6e place, ça me va. Aujourd'hui, on ne peut pas aller plus haut. Il faut être réaliste, on ne peut pas. On ne peut pas demander à représenter une ville, une région ou ce qu'on veut. Sans avoir un minimum, on ne peut pas s'amuser aller en déplacement en bus, quoi. Du moins en stop, tu vois, faire du stop et arriver là-bas, se débrouiller. Non, aujourd'hui, on ne fait pas l'effort sur le sport. Surtout, le basket, ce n'est pas un sport qui coûte cher. Parce que quand on parle d'un club qui a 120 000 euros de budget, un club de national, c'est ridicule 120 000 euros. C'est ridicule. Donc là, on est à notre place, on est bien. Poissy, ils doivent avoir le triple, c'est bien pour eux.
Ils devraient monter. Enfin, ils devraient.
Ils doivent monter en principe. Ils devraient monter. Ils ont fait quelques erreurs. Mais ils ont une belle équipe. Franchement, c'est vraiment la meilleure équipe. C'est vraiment la plus belle équipe. Les autres équipes, on prend Sceaux, Évreux, c'est faible. Pour moi, toutes les équipes que j'ai pu voir aujourd'hui dans notre poule, il n'y a qu'une équipe qui m'a impressionné et qui est bien faite, qui est bien construite, c'est l'équipe de Poissy. Parce qu'elle est, elle a été faite pour se maintenir en National 2, c'est-à-dire dans les quatre premiers. Parce que cette équipe, elle est costaud. Elle est faite pour la National 2, c'est-à-dire qu'elle serait peut-être meilleure en National 2 qu'en National 3. Là, maintenant, les joueurs qu'il y a dans cette équipe, ils ont quand même un effectif de 12 joueurs. Moi, j'en ai 8. Ils ont 12 joueurs et en plus 12 joueurs qui jouent qui ont joué entre la National 1 et la National 2. Donc, non, Poissy, j'espère qu'ils vont monter parce qu'ils le méritent. En plus, c'est des voisins, même si je ne suis pas fan. Moi, je suis assez... Je suis assez, on va dire...
nationaliste trappe au centré.
Voilà, je suis très centré trappe, donc le reste, je ne regarde pas trop. Je ne vais pas fantasmer les autres villes ou les autres clubs. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait une équipe, ils ont une municipalité qui a fait les efforts, ils ont des entreprises qui jouent leur rôle, qui jouent le jeu. Donc, ils ont fait une belle équipe.
Oui, avec des dirigeants politiques, on en reparlera tout à l'heure, à Poissy, qui aiment le sport, entre Carl Olive, David Douillet...
Qui est un ancien commentateur sportif de foot sur Canal, l'autre qui est un ancien champion canal, et puis, du monde, médaille d'or au judo.
Bah, je ne le savais pas.
Ça aide. Hein.
Je le savais pas. Non.
On peut imaginer que la volonté politique facilite le système de subvention pour les clubs locaux.
Bah, c'est normal, mais c'est même bien, mais c'est normal. Comment peut-on faire rêver nos jeunes sans élite? Sans pousser un club à trappe, on devrait être minimum en National 1. Ouais. On devrait être en National 1. Mais combien de fois on va remonter en National 2, ça c'est indéniable. On va remonter cette année si j'avais eu malchance, si j'avais pas eu autant de joueurs blessés, des joueurs. On aurait fait le taf. Je pense qu'on aurait été maximum à 3 défaites. Donc on jouerait la montée cette année.
Par contre, c'est inquiétant d'avoir un effectif aussi faible. 8 joueurs pour,
ce qui
pour
s'est
la National 3.
Parce que j'ai perdu 2 jeunes entre temps. Ce qui s'est passé. Jeunes de 16 ans, parce que nous on fait jouer les jeunes, ils ont de la chance chez nous, hein. Mais ils savent pas toujours, à 16 ans on les fait jouer en national. Et ce qui se passe, il y en a un qui a signé à Boulazac en Pro B et l'autre à Saint-Quentin. On n'a pas été au courant, l'été arrivé, nos joueurs
ont été débauchés.
Débauchés, ouais. Donc voilà, donc nous quand on part avec ces joueurs-là et on se dit, ils vont progresser, on va les faire jouer, c'est ce que je disais, c'est il faut qu'on débute une saison avec des joueurs à un certain niveau et on arrive à la fin de l'année à un autre niveau. C'est comme ça qu'on construit les grands clubs et les grandes équipes. C'est pas en allant chercher le joueur le plus cher, le meilleur joueur, non. Il faut chercher le potentiel et le potentiel, il est dans le travail et la rigueur. Parce que avoir un bon joueur qui veut pas travailler, c'est inutile. Au contraire, il va te pourrir ton socle, ton groupe, ton vestiaire et c'est pas, il faut travailler.
Alors, en tant que manager sportif du club, Nasser, quel est ton rôle là dorénavant? L'intersaison approche, tu te penches déjà sur le mercato ou...
Je vais te le dire, là on a l'antenne, mais je fais déjà mon équipe. Mon équipe, elle était déjà finie pour cette année en décembre de l'année dernière, en 2016. J'ai déjà contacté tous les joueurs depuis longtemps, c'est-à-dire que je sais où je vais. Je suis obligé d'avancer comme ça, t'as pas d'argent, tu dois placer tes billes avant tout le monde, sur certains joueurs. Et en plus, c'est des joueurs... que personne ne connaît, c'est de la détection, c'est du travail. Non, on fait ça bien avant. Tu peux pas t'amuser à faire ça sur 2 mois. Moi, je suis en vacances, là, ça y est.
Donc, la saison prochaine, on a déjà l'effectif, le staff, tout est bouclé.
Je l'ai déjà, maintenant. C'est juste à finaliser, mais tout est là.
Quelques annonces, peut-être, à l'antenne de...
Steve Kerr.
Steve Kerr, ouais.
On a besoin d'un shooter.
Non, cette année, on a fait venir un coach de Croatie. On a un joueur de Croatie qui est arrivé. Parce qu'on a une vraie structure de recrutement. C'est-à-dire qu'on connaît bien le milieu.
Vous êtes plutôt sur du jeu demi-terrain ou en...
Est-ce que tu parles de run and gun, toi?
Run and gun, ouais.
D'accord. La run and gun, tu gagnes pas de titre en gagnant la run and gun. Il faut être aussi...
Jess en a gagné.
C'est pas de la run and gun.
Ouais,
c'est parce qu'on regarde...
Non.
Vous regardez pas ce qu'il faut regarder. Il faut regarder correctement. Quand tu vois ce qu'est capable de faire Golden State demi-terrain, hormis le shoot, sur la lecture des pics, la lecture des écrans, sur l'application des défensifs, combien de rebonds offensifs ils sont capables de prendre? Comment, c'est-à-dire que les rebonds offensifs qu'ils sont capables de prendre, c'est-à-dire que l'équipe allait organiser défensivement et offensivement. C'est pas juste je cours et je jette la balle.
Non, c'est sûr.
Il y a un vrai job.
Ils ont une organisation de demi-terrain, c'est sûr. Mais avec la perte de certains joueurs, tels qu'Andrew Bogut, qui est parti sur blessure et là qui est parti, qui s'est transformé, qui s'est transféré, je veux dire. Cette année, on est clairement sur un jeu plus tourné vers les run and gun. Parce que certes, ils ont quelques systèmes, on le voit avec des Klay Thompson qui sortent sur écran ou des comment ça s'appelle, des Stephen Curry qui ont leur système avec Draymond Green. Mais on reste quand même sur un jeu basé sur de la contre-attaque et sur du run and gun malgré un certain socle de demi-terrain. C'est
comme
sûr.
T'es jeune, je vais juste te donner une consigne.
écoute le père Foras.
Je vais te dire comme t'es jeune, il faut savoir qu'à la NBA, les systèmes n'existent pas. Mmh. C'est-à-dire que tu vas lire la défense. Et en fonction de la défense, tu as plusieurs options offensives. En fonction de la défense, comment elle est placée, tu vas voir 2-3 mouvements qui vont s'enchaîner. Et quand le joueur à l'opposé du ballon voit 2-3 mouvements, il sait ce qu'il a à faire à l'opposé du ballon. Donc, ils sont capables d'enchaîner une cinquantaine de mouvements pendant des heures et des heures. Donc, tu es annoncé comme toi, tu l'as connu, ou 4, 5, des systèmes formés. Ça n'existe plus, ça. La lecture de jeu, c'est comprendre, c'est-à-dire c'est lire. Lire la défense, savoir comment est placée la défense, et tu vas structurer ton jeu en fonction de ta défense et de tes qualités. Et c'est ça la lecture de jeu.
Attends, tu veux dire qu'on fait plus d'annonces de système là ? Ça n'existe plus sur NBA ? Faut vraiment que je m'habille là. Que je m'abonne la bille.
Non, parce que c'est en fonction de la défense. Tu lis la lecture, tu lis le jeu, et c'est vraiment. Et c'est ça qui est fabuleux. Tu peux annoncer une forme, mais sur cette forme.
Ça demande une véritable cohésion d'équipe. C'est-à-dire que le meneur du jeu, il regarde, et selon le positionnement. De l'équipe adverse, il essaie de lancer un système et les autres, ils doivent suivre. Quoi.
Ouais, ça fait penser un peu à même du football américain, un peu, sur des équipes qui jouent no huddle. Le huddle, c'est le fait de se rassembler et dire une stratégie. Il y a des équipes qui enlèvent en fait
ce système.
Qui se concertent pas et qui lient directement la défense. Et ça se fait. C'est un jeu très américain qui se fait aussi comme ça.
C'est pour ça que c'est du travail. C'est un métier. C'est pour ça qu'on ne s'entraîne pas.
Ça vient naturellement après.
C'est la répétition. Plus tu vas répéter tous tes mouvements, l'ensemble de tes mouvements, plus tu vas être cohérent. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, une grande équipe n'existe pas sans du jeu demi-terrain.
Oui.
80% de
terrain. Ça veut dire quoi le jeu demi-terrain ?
C'est un jeu en fait qui est sans contre-attaque. On attend de passer le demi-terrain en fait pour annoncer des systèmes, pour commencer à jouer en fait.
Alors que le run and gun, c'est pour les footballeurs, c'est le kick and rush.
C'est ça en fait. On court, 2-3 passes.
Tout pour l'attaque.
Directement, voilà tout à fait.
Ouais, non, mais c'est pas ça. C'est-à-dire que tu poses pas le jeu et tu joues.
Ah ouais. Si en première attention,
si
voilà.
Si t'as 80% de réussite au shoot, tu peux.
Ouais.
Tu peux t'amuser à faire ça.
Mais,
mais après, les nombres de possessions vont augmenter. Donc, des deux côtés, tu peux voir, par exemple, des fois, tu dis, ça a été.
Opportunité.
Voilà. Parce que aussi, bien attaquer, c'est aussi limiter les possessions de balles de l'équipe adverse. C'est ça. Ouais. Parce que le basket, la beauté de ce sport-là, c'est quand même c'est un sport d'échecs. Ouais. Et quand tu oublies les échecs et tu joues au domino, c'est différent. Ouais. Tu vois, tu peux pas. Voilà, t'as le sport d'échecs, tu sais où tu vas, et t'as les dominos, c'est que Dieu pourra, quoi. Ce qui va arriver avec de la chance. Je jette les dés, je sais ce qui va. Je tire n'importe comment, ça rentre, tant mieux, je gagne, ça rentre pas, je perds. Non, c'est pas le basket.
Un mot sur les équipes de jeunes, Nasser, parce qu'on voit que ce soit pour les U17, les U15, les U13, vous avez le monopole des premières places. Il y a quelques pépites là, à Trappes en ce moment ?
Non, je veux dire, hein, ça fait 4 ans là, ça devient difficile à Trappes. Hein, on a deux bons cadets, deux bons jeunes. Mais nous, nos bons jeunes, après, on essaie de les faire jouer en national. Mais sinon, regarde, on a un gamin qui est au Mans, on a un gamin qui est à Boulazac, on a un gamin qui est à Saint-Quentin, on a un gamin qui est à Orléans et on en a un à Limoges. 5 gamins qui devraient jouer dans nos catégories moins de 18 et moins entre 16 ans et 18 ans. D'accord, en cadet, ce qu'on appelle cadet. Ben, ces gamins-là, je les ai pas, donc je les perds. Donc c'est-à-dire que j'ai un niveau chez les jeunes qui...
C'est dur de les garder après. S'ils arrivent à signer dans ces clubs-là, c'est que...
Mais
là,
c'est pas ça.
Les chercher.
Oui, on vient les chercher, mais qu'est-ce qu'on en fait après ? C'est la différence. Parce qu'après, dès que t'es jeune, tu veux gagner... Parce que les clubs aussi, c'est comme ça. Ils veulent gagner des titres en jeunes. Moi, j'en ai rien à faire de gagner des titres en jeunes. Ça n'est pas important. Ce que je veux, moi, c'est former des jeunes basketteurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent être mauvais aujourd'hui. Mais avec du travail sur 3-4 ans, ils sont bons. Ils sont capables d'évoluer et devenir de bons jeunes. C'est ça l'objectif. C'est pas de gagner des titres. Parce que si tu cherches à gagner des titres, ce que tu fais, dès que tu as un joueur moyen, tu le mets de côté. Tu vas recruter les meilleurs joueurs du département. Moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Nous, on a une politique de plus recruter de jeunes en dehors de Trappes. Pourquoi ? C'est-à-dire ceux qui veulent venir, ils viennent. Mais sinon, notre objectif, c'est on est entraîneur, on est là pour travailler. Si je vais chercher le meilleur joueur, le meilleur jeune du département, qu'est-ce que je fais de mes jeunes ? Ça, c'est l'échec de tous les entraîneurs. Et c'est le problème qu'il y a, je pense, en France, où, on dit, ah, lui, c'est un bon club, ah, Versailles, c'est un bon club, par exemple, tu prends Versailles au foot. Tout le monde me parlait de Versailles au foot. Mais c'est pas Versailles. Quand tu prends les mecs, d'où ils viennent, tu prends les 22, d'où ils viennent, ils viennent d'où? Ils sont à la moitié de Trappes, la moitié d'Elancourt, la moitié de Sartrouville, l'autre moitié de Mantes-la-Jolie. C'est ça la différence. Mais après, qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu ne deviens pas un club formateur. Tu te fais de la détection, c'est pas la même chose. Former, c'est prendre un joueur avec ses qualités et ses lacunes et l'emmener au plus haut niveau. C'est ça un entraîneur. C'est pas dire je veux la meilleure équipe, je veux. Non, c'est comment je vais développer mes joueurs, comment je vais les faire progresser.
Comme une sorte de Masia, quoi.
Voilà. La Masia aussi, c'est différent parce qu'ils prennent les meilleurs joueurs d'Espagne et ils les font progresser. Ouais. C'est une autre étape. Ouais. Mais nous, à notre niveau, c'est juste s'occuper de sa ville. C'est-à-dire, quand t'es sur Trappes, t'es sur Elancourt ou t'es sur Mantes-la-Jolie, t'es ailleurs, tu restes concentré sur ta ville. Tu restes concentré sur ta ville, tu fais évoluer tes jeunes. Et si tout le monde fait ça dans sa propre ville, en termes de formation et de progression des jeunes, bah c'est le basket qui va évoluer. Partout. Mais si tu dis, je prends le meilleur de chaque club, qu'est-ce que tu fais? Tu vas appauvrir tous les autres clubs. Et qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que le basket régresse partout où il existe. Parce que souvent, en jeunes, c'est des jeunes, les meilleurs du club, qui vont faire locomotive pour les autres. Mais il faut savoir que les meilleurs d'aujourd'hui, ce n'est pas les meilleurs de demain. C'est-à-dire que tes joueurs très très moyens, que tu avais en poussin qui était très très moyen, jusqu'en minime qui était très très moyen, d'un coup, ils grandissent. D'un coup, ils vont plus vite. D'un coup, ils progressent. Tu vois, c'est ça le travail.
Eh bien, on va suivre ce travail de près. Alors, ces jeunes qu'on verra peut-être dans l'équipe senior prochainement à Trappes. On rappelle prochain match et dernier match même du championnat la semaine prochaine, 15 avril, gymnase Paul Maillet, toujours.
Donc, il faut venir nombreux, c'est la dernière de
l'année. Ouais, c'est la dernière, on demande à tout le monde de venir. Ça sera notre dernier match.
Le 15 avril, le week-end samedi, prochain.
Samedi, au gymnase Paul Maillet à 20h, donc l'entrée est gratuite.
Voilà.
Donc,
dernier match de la saison. Et ce sont aussi les dernières secondes de cette émission, messieurs qui arrivent à sa terre. Mais oui, déjà 18h passées. Il faut qu'on rende l'antenne. En tout cas, merci. Merci Nasser d'être venu. Merci Noanine Baptiste. Merci. À tout le monde. On se retrouve donc lundi prochain dans l'émission Parlons Sport, 17h-18h sur Marmite FM 88.4. Bonne soirée, bonne semaine à tous.
Merci.
Tous les lundis de 17h à 18h, débat, débrief et sport local, c'est sur Marmite FM 88.4. Parlons sport. Parlons sport, une émission animée par Gilles Bombard.